J'aimerais ce matin vous partager un sujet que j'ai intitulé « Dans l'attente ». Alors je vous invite pour cela à prendre notre passage en 2 Pierre et puis nous lirons aussi deux autres passages. 2 Pierre chapitre 3 et nous lirons à partir du verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui, sans tache et irréprochable dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Tournez donc également avec moi en 1 Jean, chapitre 3, versets 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Et un dernier passage en Romains 8. Romains 8, verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Et puis, passons au verset 22:3. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et verset 25, encore, suivant. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Alors, si vous avez remarqué dans les différents passages que nous avons lus, il est question de l'attente, dans l'attente. Peut-être parmi vous, y a-t-il des gens qui apprécient, qui aiment à étudier les prophéties dans la parole de Dieu? C'est fascinant. C'est merveilleux, même. Si on regarde un petit peu de plus près les prophéties, nous pouvons nous émerveiller de leur réalisation. Si précise. Et pourtant si impensable lorsqu'elles ont été annoncées. Nous pouvons aussi nous fasciner pour essayer de discerner un peu plus l'avenir, puisqu'il y a encore des prophéties dans la parole de Dieu qui ne sont pas encore réalisées. Et alors, essayer de comprendre, de découvrir pour aller un peu plus loin. Et le Seigneur a voulu, dans sa grâce, nous dévoiler une partie de l'avenir. Veillons à ce que cette fascination ne prenne pas le dessus pour que finalement nous fascinions pour les prophéties et non pour Christ lui-même. Parce que certains sont tellement pris par cela, je parle de chrétiens, qui finalement sont tellement focalisés par les prophéties, ne pensent plus qu'à ça, et vont au-delà de ce que la parole de Dieu enseigne, et vont émettre des spéculations, des idées dessus, et parfois on va trop loin, même des sectes utilisent les prophéties pour emmener, embrigader des personnes et les amener à faire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais si Dieu nous donne le plan de l'avenir, c'est pour nous motiver, pour nous encourager, nous orienter dans notre vie quotidienne maintenant. Et c'est ça que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est que si nous connaissons l'avenir, l'avenir est là non pas pour que nous nous projetions et que nous imaginions qu'est-ce que nous allions faire dans l'avenir, nous pouvons y penser, mais c'est pour nous encourager dans la vie présente. Et d'ailleurs, toute réalité future ont des conséquences dans notre présent. Je ne parle pas là d'imagination ou de spéculation ou d'idées, mais des choses dans le futur qu'on a dans le futur vont nous aider, nous encourager aujourd'hui dans tous les domaines et bien sûr dans le domaine spirituel. Dans les prophéties à venir, il y a tout un déroulement que le Seigneur nous dévoile. Mais au final, il s'agit essentiellement de deux aspects qui seront manifestés. Premièrement, la justice de Dieu. Justice de Dieu qui sera manifestée par ses différents jugements. Mais aussi l'amour de Dieu par son salut accompli, qui viendra à son terme. Si vous regardez avec moi en hébreu, et on connaît beaucoup le passage en hébreu 9, verset 27, mais moins le verset 28. Alors j'aimerais qu'on lise les deux. Hébreu 9, verset 27 et 28, et il dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ?» On voit dans ce premier verset, il est question de jugement. On connaît bien parce que, notamment, il coupe court à toute idée de réincarnation. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après, le jugement. Donc, ici, nous met devant notre responsabilité, il y a un jugement. Voilà l'avenir. On veut connaître l'avenir, ben, il y a un jugement qui va venir. Nous devrons comparaître. Toute âme devra comparaître. Mais on voit dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs jugements. Le jugement des croyants, les jugements des incroyants. Et le verset 28, il dit « De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Je mets toujours une pause dans ma lecture à chaque fois où on voit le mot « attend »,« attendre ». Et bon, parce que c'est vraiment le sujet de ce matin. Et on voit ici, d'un côté, il y a le jugement, et d'un autre côté, il y a ceux qui l'attendent. Et il va revenir pour prendre soin de cela. On voit donc ces deux aspects de la prophétie qui sont essentiels. Et c'est ce dernier point que j'aimerais voir plus avec vous, c'est pour ceux qui attendent. Est-ce que nous attendons Jésus-Christ ? Est-ce que nous sommes dans l'attente ? C'est vrai, dimanche dernier, on a vu un sujet complètement différent, mais on a vu que le peuple d'Israël, eh bien, dans l'attente de Moïse, se sont impatientés et se sont tournés vers les idoles. Une idole, le veau d'or. Le danger, c'est que dans l'attente, nous nous impatientons, excusez-moi, et que finalement, on ne soit plus dans l'attente. Et si je remarque quelque chose, c'est que parmi les chrétiens, aujourd'hui, de moins en moins, cette attente est perceptible et visible dans la vie du croyant, dans la vie de l'Église de Jésus-Christ. Et pourtant, c'est bien dans cette attente que nous voulons vivre. Devant cette attente, eh bien, devant cette connaissance, je veux dire, de l'avenir, nous ne devrons pas être oisifs. Quelle est notre attitude? Alors on voit, là c'est les Français, de manière générale, dans l'attente de leur retraite, eh bien ils travaillent. Alors on travaille dur et on n'a qu'une chose en tête, la retraite. Peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'elle vient de plus en plus tardivement. Et on ne sait pas de quoi elle sera faite, c'est vrai. Mais je parle surtout des générations précédentes. Moi, j'ai grandi avec ça, où je voyais autour de moi tous ceux qui attendaient la retraite. Et quand on voit ceux qui arrivent à la retraite, certains arrivent en bonne santé, mais certains ne sont plus en bonne santé. D'autres meurent. Et finalement, ils ont attendu toute leur vie leur retraite, et ils n'en profitent pas. Mais l'avenir devrait nous réjouir pour notre présent. L'attente, est-ce que nous sommes en train d'attendre passivement ou est-ce que ça nous rend actifs? Alors, pour vous montrer, je vais vous donner encore deux exemples. C'est que quand on est dans l'attente, ça devrait nous rendre actifs. Si c'est une réelle attente, on devrait être là. Ça devrait être perceptible, visible. Quand j'étais adolescent, j'allais à la musique, à l'école de musique. Et ma mère m'y déposait, et puis c'était le soir, alors elle devait rester à la maison, donc c'est pas elle qui venait me chercher, c'était mon père. Et mon père arrivait souvent en retard. Et donc j'attendais. Et quand je repense à cela, j'attendais non pas assis sur le rebord, sur une marche ou quelque part, j'étais debout et je scrutais à l'horizon chaque voiture qui arrivait. Et j'étais persuadé que la voiture qui allait arriver, la prochaine là, c'était la bonne. Et non, c'était pas la bonne. Et j'attendais encore la suivante, et j'attendais. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'attente. J'attendais activement, j'attendais que mon père arrive. Une autre attitude aurait été, eh bien, de juste, de toute façon il arrivera en retard, de toute façon il est jamais là, etc. Et puis finalement, me mettre à jouer ou être en train de m'ennuyer. Non, j'étais là, en train d'attendre. Il y a un peu moins de 3 ans, maintenant, que notre Jérémy, notre dernier, est né. Et mon épouse, avant, donc, était enceinte. Et le dernier mois de grossesse, on était là dans l'attente du nouveau venu. Et j'ai le privilège d'avoir un bureau à l'église, et donc j'y vais, je m'y rends, et en le quittant, en général, je laisse ma Bible ouverte, je laisse souvent des notes ou ma concordance, enfin ce que j'étais en train de faire, et puis hop, je pars. Mais ce dernier mois, j'ai refermé tout, parce que je me dis, peut-être je reviendrai pas. Je reviendrai pas dans 1 ou 2 jours, peut-être plusieurs jours, parce que mon épouse accouchera. Et alors, je serai à côté d'elle. Et pendant 2 ou 3 semaines, eh bien, mon bureau était tout rangé, prêt à ce que je n'y sois plus pour quelques jours. Et comme ça, parce que j'étais dans l'attente. Voilà, juste quelques exemples pour vous montrer que la connaissance de l'avenir ne peut pas nous laisser oisifs. Alors, j'aimerais voir ce matin 3 aspects dans notre chapitre en 2 Pierre. Une attente sanctifiante, une attente pressante et une attente persévérante. Pourquoi? Parce que on voit dans ce chapitre de 2 Pierre chapitre 3, à plusieurs reprises, à 3 reprises, nous voyons ce terme, c'est attendre. Mais ce qui est étonnant, enfin c'est pas si étonnant, mais qui est évident dans ce passage, c'est que il y a la patience de Dieu, l'attente, mais aussi l'action rapide. Le fait de faire vite, de se hâter. Et en fait, ce passage exprime que nous sommes dans l'attente, mais il faut faire vite. Parce qu'il va bientôt revenir le Seigneur, alors on a encore tant de choses à faire qu'il nous faut se dépêcher. Alors, une attente sanctifiante, et c'est ce que nous avons lu également en 1 Jean chapitre 3, où il était dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Donc, celui qui a l'espérance, cette attente, eh bien, va se purifier dans cette attente. Une attente sanctifiante. Et c'est ce que nous voyons dans notre passage, en 2 Pierre, le verset 11, il est dit « puisque ». Et au verset 14, « c'est pourquoi ». Alors, ça va directement au verset précédent. Le « puisque » fait référence au fait que la terre va tout se dissoudre, et comme nous avons vu dimanche dernier à la leçon des enfants, eh bien, on ne va rien emporter au ciel. Les chaises, les Playmobil, tout ça, eh bien, on n'emporte pas au ciel. Tout va disparaître, tout va se détruire. Donc, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Donc, on voit ici l'accent qui est mis, non pas sur les choses matérielles, mais sur notre conduite personnelle et notre piété. Donc, on voit ici l'attente sanctifiante. Le deuxième aspect, verset 14, c'est pourquoi fait référence à ce que nous attendons, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, donc, où on veut y habiter, eh bien déjà vivons sur cette terre, comme nous vivrons là-haut, comme nous vivrons sur cette nouvelle terre. N'attendons pas d'être là-bas pour vivre comme nous vivrons là-bas. Mais déjà ici, on peut y vivre. Une attente sanctifiante. Si nous sommes dans l'attente, eh bien, notre vie va être différente. Elle va changer. Suis-je à attendre dans mon fauteuil lorsque j'attends un ami? J'ai invité des amis là, et plusieurs amis à la maison. Et est-ce que je suis en train d'attendre? Bon, il a 5 minutes de retard et je suis dans mon fauteuil et je dis, mais quand est-ce qu'il arrivera? Ennuyeusement, et dire, bon, où est-ce que je suis en train de m'activer pour que le repas soit fin prêt, pour que la maison soit bien rangée, pour qu'elle soit accueillante? Et là, je manifeste à mes invités toute mon attente de même. Bien sûr, quand on attend nos amis, on est actif. Si nous attendons le Seigneur Jésus-Christ, lui le Saint, nous présenterons-nous avec nos habits de travail, nos haillons, ou est-ce que justement nous veillons à être revêtus de nos plus beaux habits? Et comment nous parer devant le Seigneur Jésus-Christ, sinon de nous parer de la sainteté, de nous parer de ses habits lui-même qu'il nous donne? Une conduite sainte, nous est-il dit. Si tout ça est en voie de dissolution, combien votre conduite doit être sainte? Notre conduite parle de notre vie devant les hommes, au regard des hommes. Et notre conduite devrait être sainte. Ici-bas est le prélude de notre vie avec lui. Et notre conduite ne peut être celle de ce monde. Ce monde qui est conduit par l'ennemi même de celui que nous attendons. Si nous attendons Jésus-Christ, eh bien nous allons nous conduire selon lui. Il est si facile pourtant, quand on est avec d'autres, de faire rire quelqu'un en se moquant d'un troisième. Il est si facile de passer sous silence quelque chose pour notre profit. Il est si facile d'avoir une apparence, ce qu'on attend de toi, plutôt que d'être soi-même au risque de quelque mépris. Alors que le Seigneur nous dit, celui qui aura honte de moi, j'aurai honte de lui. Non seulement donc notre conduite devant les hommes, et a fortiori devant Dieu, mais aussi notre piété. Il nous est dit toujours au verset 11 que votre conduite et votre piété doivent être saintes. Ici, la piété parle de notre vie personnelle avec Dieu. On a parlé de notre conduite devant les hommes et de notre piété devant le Seigneur. La piété, c'est notre marche personnelle que les autres ne voient pas. C'est ce que nous voyons en Matthieu, il dit « Va dans ta chambre, ferme la porte et là, prie-le ». C'est le temps que nous passons dans la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons pour le Seigneur sans que les autres voient que nous faisons. Voilà, pour pour lui. Notre piété, notre marche avec le Seigneur. En 1 Timothée, l'apôtre Paul, au chapitre 4, 1 Timothée 4, nous dit au verset 8, « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle à venir, qui est à venir. » Donc on voit la piété. Notre vie personnelle avec Dieu est importante, est essentielle. Alors que ce monde tient beaucoup à l'apparence, au paraître. Eh bien, le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Il voit si nous grandissons avec lui. Il voit si nous sommes honnêtes devant lui. Voilà ce qui compte devant lui, c'est notre piété. Toujours en 1 Timothée, au chapitre 6, verset 6, il dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété, avec le contentement. » Parce que là, il y a tout un sujet, un contexte, mais une grande source de gain, c'est la piété. Combien nous pouvons être hypocrites et avoir de beaux discours, surtout quand on grandit dans l'Église. Quand on a le vocabulaire, la connaissance, la culture, et finalement paraître devant les autres. Mais le Seigneur, ce qu'il attend de nous, c'est notre piété devant lui. Combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. Deuxièmement, une attente pressante. Alors si vous regardez avec moi en 2 Pierre, chapitre 3, verset 12, il dit « Attendez et hâtez le jour de Dieu. » Attendez et hâtez. On a aussi lu en Romains 8, 19, je vous le relis, 8, verset 19, il dit « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Elle attend également. Une attente pressante. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de avancer l'heure du retour. L'heure où le Seigneur viendra est déjà fixée par Dieu. Il ne s'agit donc pas de hâter, de la précipiter, mais c'est de nous de l'attendre de manière pressante. On parle en ce moment des vacances, de certains qui sont en vacances, d'autres qui le sont, qui vont y aller, qui reviennent, etc. Bien souvent, et surtout dans la tête des Français, on y pense déjà depuis plusieurs mois. J'ai hâte que les vacances arrivent. Est-ce qu'on pense qu'on va les rapprocher de nous, les vacances ? Que finalement, elles arriveront au mois d'avril ou au mois de mai ? Non, on sait très bien que ce sera au mois de juillet, août. Mais on a hâte. Et dans cette hâte, on va préparer la destination, on va préparer nos bagages, on va préparer ce qu'on visitera, on va préparer les personnes qu'on rendra visite, enfin on va se projeter, on va hâter, on va avoir hâte. Ça veut dire qu'on va vraiment cette attente pressante. C'est donc de se mettre en action en vue de ce jour merveilleux. Notre destination, c'est le ciel, nous dit Philippiens 3:20. Nos bagages, rien, sinon que les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il est dit en 1 Corinthiens 15:58, « Votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » C'est tout ce que nous avons fait dans le Seigneur. Qui est-ce qui va nous accueillir au ciel ? Ce sont ceux à qui nous aurons parlé du Seigneur et qui auront cru. Ceux pour qui nous aurons usé des biens de ce monde, pas dans la mission, les traités que nous aurons évangélisés. Ça, c'est Luc chapitre 16 qui nous dit de bien utiliser nos biens pour l'œuvre du Seigneur. Et alors, eux nous accueilleront au ciel. Mais si nous ne parlons pas du Seigneur, si nous disons à personne que nous sommes chrétiens, que nous ne distribuons même pas une Bible ou des traités à des uns et des autres, qui est-ce qui va nous accueillir au ciel? Nous ne sommes alors pas dans cette attente pressante. Pourtant, c'est ce dont il nous parle, hein, de Pierre 3. Avec une telle perspective que celle de notre salut dans la présence du Seigneur, notre attente est pressante, elle est constante, elle est visible dans toutes nos décisions et dans tous nos engagements. Nos études, là je parle aux étudiants, on va les mener comme pour le Seigneur, avec sérieux, ayant pour but une situation pour son service. Les études ne devraient pas être une fin en soi, mais juste un moyen d'avoir un travail pour travailler dans ce monde et alors gagner sa vie pour donner. Et puis avoir un travail qui puisse nous libérer du temps afin d'agir au sein de son Église. Notre mariage. Pourquoi nous marions-nous ? Si nous sommes dans l'attente du Seigneur, eh bien si nous sommes dans l'attente du Seigneur, nous marions, mais c'est pour servir mieux encore le Seigneur. Pas que nous ne pouvons pas le servir en n'étant pas mariés, mais si nous marions, que ça soit pour le servir davantage. Si nous envisageons le mariage avec quelqu'un qui risque de nous freiner dans notre témoignage, qui risque de nous freiner dans notre zèle, alors c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Si notre attente est au ciel, si notre attente est le Seigneur Jésus-Christ, alors même dans notre mariage, ça se voit cette attente. Notre travail, est-il une occasion pour témoigner? Mais si c'est notre moyen de nous épanouir, comme on dit si facilement, je m'épanouis dans mon travail. Notre travail n'est pas un lieu où on doit nous épanouir, même si on doit être heureux dans notre travail, bien sûr, et on le sera si on le fait pour le Seigneur. Mais notre épanouissement, l'épanouissement du chrétien, il est en Christ. En 2 Timothée 4:8, Paul va exprimer cette attente avec d'autres termes, mais qui expriment ce même empressement. 2 Timothée 4, verset 8. Il nous est dit, il est à la fin de sa vie, hein, l'apôtre Paul, « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Désiré son avènement. Désiré ardemment son avènement. » Vous voyez, c'est cette expression ici-là de « aimer son avènement ». Quand on aime quelqu'un, on désire, on attend de le voir. L'apôtre Paul était dans cette attente pressante. L'êtes-vous? Voyez avec moi un troisième point, c'est une attente persévérante, ou bien appliquée. Revenons en 2 Pierre, au verset 13, 2 Pierre 3, verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Et verset 14, c'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache, irréprochables dans la paix. On voit ici ce terme, appliquez-vous. Ça veut dire, attendez assidûment et patiemment. C'est ce même le terme qui est utilisé en Hébreux 9, 28, que on avait lu tout à l'heure, 9, 28, que je vais vous le relire, il dit « à ceux qui l'attendent pour leur salut ». Ça veut dire à ceux qui sont là en attendant assidûment et patiemment. Cette attente est persévérante, elle n'est pas d'un jour. Puis, hop, on oublie, on se remet à notre vie quotidienne. Non, elle s'accentue au fur et à mesure. Plus nous attendons, plus nous sommes prêts du moment où le jour va arriver. Si je reprends l'exemple de l'école de musique où j'attendais mon père, plus les minutes passaient, plus j'étais sûr qu'il allait arriver. Eh bien, de jour en jour, notre attente devrait grandir. Parce que nous persévérons dans cette attente. Nous attendons Et s'il y a un jour de plus qui s'est passé, alors on est un jour de plus près du Seigneur. Nous savons que cela va venir. Le Seigneur est fidèle et s'il nous l'a promis, il viendra. Attendons donc l'accomplissement de ses promesses. Manquons-nous de foi? Laissons-nous happer par les soucis de ce siècle? Ou nous lassons-nous d'attendre? Ou nous relâcher dans cette attente? Ou bien avons-nous cette espérance que le Seigneur reviendra, comme il nous est dit et comme il est décrit là en 2 Pierre? Le jugement, la dissolution, mais aussi un nouveau ciel, une nouvelle terre. Une attente appliquée, une attente que nous nous appliquons à préparer par une vie conséquente. C'est vraiment un sujet de prière pour ma part, d'avoir une vie conséquente. C'est devenu d'autant plus évident avec des enfants parce que ils nous voient tous les jours et on doit être conséquent chaque jour. Et le Seigneur, lui, nous voit aussi. Il voit même nos pensées. Est-ce que nous persévérons dans cette attente? Il y a encore du boulot dans notre vie et le Seigneur veut l'accomplir. Sommes-nous participants de cette œuvre que le Seigneur veut accomplir en nous afin que nous lui ressemblons? Ou bien sommes-nous un obstacle, voulant vivre dans ce monde ou voulant satisfaire nos convoitises? Après donc la compréhension et la connaissance des prophéties du Seigneur, j'ai une question pour vous. Croyez-vous aux prophéties que la parole de Dieu nous enseigne? Celles qui sont passées, on y croit puisqu'elles sont accomplies. Et pourquoi celles qui sont à venir ne les accomplirait-il pas? Bien sûr, il va les accomplir. Mais croyons-les. Alors ça devrait se voir dans notre vie, dans notre attente, dans notre attente persévérante, dans notre attente pressante, dans notre attente sanctifiante. Ça devrait se voir dans notre propre vie. Quelle perspective avons-nous à court, à moyen, à long terme? Est-ce d'être au Seigneur, de lui ressembler davantage? Alors cela a toute sa pertinence pour notre vie, non pas dans le futur, mais déjà aujourd'hui. Dans nos choix, dans notre attitude, dans notre conduite, dans notre piété. S'il y a une chose que nous oublions facilement, c'est bien cela. C'est bien notamment l'avenir, d'attendre le Seigneur. Car elle est nullement exprimée dans ce monde. Ce n'est pas le monde qui va nous rappeler d'attendre Jésus-Christ. Le monde nous rappelle d'attendre les vacances, d'attendre notre retraite, d'attendre quantité de choses. Mais pas d'attendre Jésus-Christ. Il est donc si facile de nous lasser dans cette attente et de manquer de nous y appliquer. Pourtant, la scène, chaque dimanche, lorsque nous prenons le repas du Seigneur, eh bien, nous rappelons que le Seigneur va revenir, puisque nous mangeons le pain et nous buvons la coupe jusqu'à ce qu'il revienne. Et le Seigneur, il nous a donné ces éléments non seulement pour nous rappeler l'œuvre de Jésus-Christ, qu'il a faite, qu'il a accomplie, mais le complet accomplissement à la fin, lorsque nous serons à nouveau avec lui. Notre inconfort dans ce monde devrait nous faire soupirer après le retour du Seigneur. Est-ce que nous sommes dans cet inconfort? Et de soupirer là comme la nature elle souffre dans ce monde. Il y a toutes ces épines, il y a tout ce monde qui est sale, qui est pollué, et la nature elle souffre de tout cela. Elle soupire, elle attend une chose, c'est le plein rétablissement. Est-ce que nous sommes de ceux qui attendent cela? Et puis bien sûr, la parole de Dieu nous rappelle aussi sans cesse que que le Seigneur va revenir. Alors si nous buvons sa parole, si nous nous nourrissons de sa parole chaque jour, eh bien, nous demeurerons dans cette attente du Seigneur Jésus.